BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est quasiment midi, une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. Les marchés qui naviguent à vue ce midi, après les dernières informations de presse, informations selon lesquelles Donald Trump envisagerait de mettre fin à l'intervention militaire en Iran, même sans obtenir la réouverture du détroit d'Hormuz. Résultat, une légère détente sur les marchés, CAC 40 dans le vert, le baril de Brent qui redescend autour des 110 dollars. Côté obligataire, la dette de l'État français à 10 ans reste élevée, mais elle est repassée sous les 3,8%. Malgré cette accalmie fragile sur les marchés, j'ai noté cette mise en garde du commissaire européen à l'énergie qui appelle dans une lettre les gouvernements de l'Union européenne à se préparer à une perturbation prolongée. Lettre envoyée en amont d'une réunion d'urgence organisée aujourd'hui en visioconférence entre les différents ministres européens de l'énergie. Première traduction concrète des tensions énergétiques liées à la guerre au Moyen-Orient. L'inflation en zone euro a grimpé à 2,5% sur un an en mars après 1,9% en février. Première estimation d'Eurostat qui reste tout de même légèrement en dessous de ce que prévoyait les analystes. Enfin, autre indicateur publié aujourd'hui, celui des constructions de logements en France. Malgré une légère hausse des permis de construire délivrés en février, les mises en chantier, elles, continuent de reculer. Sur 12 mois, à peine plus de 280 000 logements ont été démarrés à la construction, soit environ 18% de moins que la moyenne des 5 dernières années. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO, justement.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
Votre rendez-vous avec JLL, votre partenaire pour réussir vos opérations immobilières.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure, pour parler de notre immobilier, de nos logements. Désolée, c'est parce qu'on a un invité en plateau qui s'amuse avec sa chaise pendant que je fais le sommaire. Et donc, bref, comme tous les jours, ces experts de l'IMO démarrent par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de l'immobilier, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Et aujourd'hui, on achète sans visiter. Alors oui, c'est très rare, mais quand on vit à 6 ou 7 000 km de distance, bah, c'est plus pratique quand même. On verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour et nos invités vont nous faire un petit point, un focus sur le club deal accessible. Club deal, ça veut dire quoi? Accessible, on parle de combien? Si je vous parle de 10% de rendement, bah là vous allez rester à l'antenne avec nous pour nous écouter et prendre peut-être des conseils auprès de nos invités. Allez, c'est l'heure du pro de l'IMO d'abord.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Maher Slama, directeur associé de l'agence Nesten de Roissy-en-Brie. Bonjour Maher.
Bonjour Marie, comment allez-vous?
Super bien, et vous?
Ça va, nickel, très heureux d'être là.
Bon bah super, bah écoutez, formidable. En plus vous avez une histoire assez sympa et en plus ça va nous faire voyager. Je disais, les achats sans visite du tout physique, c'est quand même extrêmement rare. Bon bah là en l'occurrence, quand on fait la Martinique et Roissy-en-Brie, globalement, les déplacements c'est un peu compliqué quoi.
Alors c'est un peu compliqué, j'aurais bien aimé moi rencontrer mes clients à l'autre bout du monde. Là il s'avère que c'est vrai que notre cliente, l'histoire elle est belle, pourquoi? Parce qu'elle est en Guyane, elle était partie pour une mission professionnelle il y a une dizaine d'années, donc elle est quand même de notre secteur de base, et donc elle veut retourner aux sources et se rapprocher de ses enfants et de sa famille. Donc évidemment...
Ah elle est en Guyane délicat. Parce qu'on m'avait dit la Martinique.
Bah autant pour moi.
Guyane, Marie, non mais en même temps c'est sympa, hein. Non mais en même temps les deux me bottent bien, hein, donc...
Ça reste le dumpum, ça reste la France et on embrasse tout le monde derrière de l'autre côté. Et donc, in fine, pas de visite, mais on a un petit mail comme ça qui arrive du bout du monde. Nous, à partir de là, on s'adapte. On arrive à donc grâce au digital aujourd'hui et à la technologie à présenter donc différents biens à notre cliente grâce à des visites virtuelles dans un premier temps. Donc, elle pose son dévolu sur un appartement qui lui convient parfaitement. On organise une visite avec ses enfants, donc avec les enfants, ils valident le produit. De là, on refait une visio, on va dire, donc dans l'appartement pour bien préciser certaines choses, etc. Et ça lui convient. Donc c'est génial. On a réussi effectivement par la suite à signer donc à distance, parce qu'on peut très bien aujourd'hui, grâce à la signature électronique, signer une offre donc une offre d'achat à distance. Et ça s'est fait également de la même façon pour le compromis de vente, avec une visio où on a pu avoir eu le temps d'expliquer tous les termes du compromis et de se mettre d'accord.
Question Maher, il s'agissait d'un achat à combien? Parce que j'ai le sentiment que c'est peut-être plus simple, soit si ça coûte très peu cher, ou en tout cas que c'est quand même raisonnable comme tarif, ou alors pour les gens qui sont très très riches et pour le coup ils sont peut-être moins regardants.
Alors là, non, mais c'est, on va dire, un achat moyen. On est sur une enveloppe à 235 000 euros.
Oui, c'est à peu près la moyenne des achats en France, effectivement. Ouais.
Et, exactement. Donc, on est plutôt sur un achat moyen où je pense que la confiance, on va dire, règne aussi dans l'humain. Et là, c'est un peu le mix des deux. On est sur quelque chose de figital, j'ai envie de dire. Donc, l'agent immobilier s'est quand même déplacé. On a fait la visite avec les enfants. Le digital et le référencement naturel de l'agence aussi, grâce à, ben, je les remercie au passage, à notre réseau, à Nesten et tout le travail de toute l'équipe là-haut et de Cédric Leroux aussi, qui font que, voilà, on a une bonne image au niveau Internet et un bon référencement. On arrive à être capté. Et ensuite, nous, évidemment, il y a la petite magie qui va faire la différence et la confiance qui va rester avec le client malgré la distance.
Maher, j'ai une question. Si quand cette acheteuse va débouler en métropole et à Roissy-en-Brie, elle voit un truc dans le logement qu'elle n'avait pas perçu parce que visite en visio, etc., est-ce qu'elle a moyen de se retourner ? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment sécure ou est-ce que à partir du moment où je m'engage même en visio, c'est comme si j'avais visité physiquement le bien ?
Alors, c'est pas que de la visio vu que ses enfants l'ont vu, mais effectivement, il y aura une revisite, la petite revisite, on va dire, avant la vente authentique, où on fait les relevés des compteurs énergétiques, et là, on voit si tout correspond vraiment en tout point à ce qu'elle avait vu. C'est vrai que ça restait de la visio pour elle, mais auquel cas, s'il y a des choses qui sont incohérentes ou pas validées, on peut en prendre note, on en parle chez le notaire, on peut éventuellement séquestrer une somme s'il y a eu un petit dégât des eaux ou autre, etc. On trouve toujours des solutions. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si on a des vendeurs qui sont bienveillants et des acheteurs aussi, on va trouver des solutions, même post-vente, avec les notaires et toutes les parties.
Et donc avec les vendeurs aussi, du coup ?
Bien sûr, bien sûr. Les vendeurs qui sont aussi nos clients, qui, c'est-à-dire que le projet ne s'arrête pas là. Pour eux aussi, on va leur trouver soit un achat, soit une location, d'où le développement des multimétiers des agences aussi, qui est important. Et au-delà de ça, l'histoire, pourquoi elle est belle aussi, Marie, c'est que là, on fait tout pour synchroniser cette vente le jour de l'anniversaire des 50 ans de notre cliente, en l'occurrence le 26 mai 2026.
Oh, c'est mignon. Vous faites quoi le 5 décembre prochain ? Va falloir me trouver un logement.
Le quoi, Marie ?
Le 5 décembre, n'oubliez pas, c'est une date importante.
Alors, le 5 décembre, on se verra un petit peu avant à la rentrée. Moi, c'est le 6 septembre, ma date de naissance, donc vous n'oubliez pas aussi. Je rebondis. On se voit en début d'année, on met en place votre projet, vous serez chez vous pour le 5 décembre. Oh, avec plaisir.
C'est adorable, mère. Mais moi, je veux visiter physiquement. En tout cas, vous voyez, ça existe quand on est loin. On peut aussi acheter à distance et c'est sécurisé. Merci pour ce témoignage, Maher Slama, directeur associé de l'agence Nesten de Roissy-en-Brie. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, Mathias Flatin, cofondateur de Crayon Partners. Bonjour Mathias.
Bonjour Marie.
Et à mes côtés également, Stéphane Briand, directeur du développement chez Pulsim. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie.
Et je le disais donc dans mon sommaire, avant que vous jouiez avec votre chaise, Stéphane, on va parler de club deal accessible. Alors déjà, on va essayer de faire de la pédagogie. Quand je dis club deal, c'est un très très vilain mot. Donc qu'est-ce qui se cache derrière un club deal ? Parce que là, ça fait peur à tout le monde, hein, on va pas se mentir.
Ça fait peur. Il y a aussi un terme, je pense, un peu financier, sachant que le club deal, on va l'expliquer aujourd'hui, hein, c'est plutôt une approche immobilière. Mais si on tente de simplifier, c'est investir à plusieurs dans une opération immobilière qui a déjà été identifiée, avec une stratégie qui est claire et surtout une sortie, là aussi, que l'on connaît à l'avance.
Donc, c'est une sorte de crowdfunding immobilier ?
Ah, ça y est, je sais.
Voilà. Bah oui, j'essaye de me simplifier la compréhension.
Si maintenant on continue, c'est-à-dire que si on rentre vraiment dans le concept et dans le détail, c'est bien souvent un opérateur, un sponsor, un asset manager ou un investisseur professionnel qui va du coup trouver une opportunité. Il va donc la concevoir et la réaliser au travers de business plans et autres. Et donc tout se fait finalement au travers d'une société. Ça peut être une société anonyme, ça peut être une société par action simplifiée. Et la différence, notamment sur du crowdfunding, on parle plutôt de dette. Là, les investisseurs vont rentrer directement au capital de la société. Donc on est vraiment sur une approche qui est totalement différente. Le crowdfunding, généralement, on est sur de la dette pour financer les fonds propres d'un promoteur, donc il y a quand même une sorte de créance vis-à-vis des investisseurs. Là, on est sur de l'augmentation de capital. Les investisseurs rentrent au sein de la société, sont titulaires de parts. L'actif est bien défini, il y a une stratégie. L'investisseur, d'ailleurs, rentre pleinement dans la stratégie et l'évolution de l'actif. Donc, c'est totalement décorrélé. Et c'est pour moi deux classes d'actifs différentes.
Mathias ?
Ouais, peut-être pour poursuivre, je pense que l'enjeu du club deal, c'est qu'il y a des plafonds. Sinon, on rentre dans le régime de fonds d'investissement alternatif. Donc, il y a des plafonds, ça s'adresse à un nombre restreint d'investisseurs, des investisseurs qui créent ce club privé, qui vont aussi participer à sa gestion au quotidien. Dans...
Ah oui, c'est pas juste je mets des pépettes et après je m'en occupe.
C'est un processus d'assemblée générale.
Attention.
Dans lequel vous contribuez à chaque décision importante du véhicule et à sa sortie. Et ça enlève le côté discrétionnaire d'un fonds d'investissement où ce sera plutôt l'équipe de gestion d'un fonds qui va décider quels actifs. Là, on connaît l'actif, le groupe d'actifs dès le début. Tout le monde se regroupe, met ses moyens en commun et prend le risque aussi qu'on appelle plus de capitaux plus tard s'il y a des dépenses inattendues, par exemple.
C'est un investissement qui demande aussi de l'investissement de la part de ceux qui investissent, en fait. Enfin, alors, c'est pas du crowdfunding immobilier, c'est pas de la SCPI où je donne de l'argent, j'attends que ça fasse des bébés. Et,
non, il y a des outils. On parlait de, il y a plein d'anglicismes crowdfunding, figital tout à l'heure avec votre invité.
Ben, moi,
il y a plein d'outils aujourd'hui.
Ah, les anglicismes.
Non, mais l'intérêt c'est que le digital est partout et il est pas encore assez dans l'immobilier, mais dans la finance il est déjà là et il permet automatiquement de questionner les associés parce que c'est pas des investisseurs, c'est des associés. Dans un club deal, on est dans une forme d'entreprise, et de les faire voter sur des décisions importantes de manière réactive, parce qu'un immeuble, ça ne peut pas attendre quand il y a une urgence ou quand il y a une décision de cession, il faut aller vite.
Et c'est vrai qu'il y a deux sujets. C'est vrai qu'on vous parlait, Marie, des CPI. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est assez commun, ce sont les CPI, ce sont les fonds immobiliers, où là, en effet, on est sur ce qu'on appelle de la gestion pour compte de tiers. C'est-à-dire que le gérant va récupérer les fonds issus des investisseurs.
Et c'est lui qui va aller investir et choisir les
fonds. Au fur et à mesure, en effet, et au fil du temps, il va réinvestir ses fonds sur différents actifs immobiliers. Donc là, c'est vrai qu'il y a un côté un peu tranquille pour l'investisseur. Il faut simplement faire confiance soit au track record, soit au gérant de fonds, sur les performances futures. Si on parle maintenant des club deals, et c'est pour ça que c'est tout aussi intéressant, mais c'est vrai qu'il y a quand même un travail de réflexion qui est pour moi essentiel pour l'investisseur. Il faut déjà, forcément, l'actif, on le connaît à l'avance.
Ouais.
Il y a quand même des éléments pour vérifier la solidité ou le futur de l'actif. On connaît aussi l'opérateur, celui qui va monter véritablement l'opération, et on connaît la sortie. Donc il y a quand même trois éléments que l'on connaît, qui sont assez facilement vérifiables. Et puis surtout, il y a deux types de projets lorsqu'on évoque les club deals. Vous avez ce qu'on appelle le club deal value-add ou marchand de biens. Dans ces cas-là, on est vraiment sur la création de valeur. Ça peut être un terrain à bâtir. Ça peut être, on va vraiment créer de la valeur sur un actif. Et bien souvent avec une revente plus ou moins rapide. Et ensuite, on peut retrouver des club deals sous la forme de foncière. Où là, c'est différent. L'actif est existant. Les travaux sont déjà faits. On a les locataires. Et là, on vise plutôt un horizon de placement patrimonial. 5, 10 ou 15 ans, avec un enrichissement sur la perception des revenus et le remboursement de l'emprunt.
Alors moi, j'ai une question à vous poser, messieurs, parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute, je commence à comprendre un peu le système, mais je me dis, est-ce que vraiment ça s'adresse à des investisseurs privés comme moi et comme nos auditeurs et téléspectateurs ? À partir de combien je peux investir et moi-même participer à ce super club ?
Je crois que je vais laisser répondre Steven. On n'a pas exactement la même cible. Nous, on est plutôt sur des tickets un petit peu plus élevés, de gens qui sont intéressés par...
Qui vous dit que j'ai pas les moyens ?
par le flagship, par l'histoire de l'actif. C'est ça aussi l'intérêt d'un club deal, c'est qu'on vous présente un actif. Oui. Cet actif, vous pouvez aller le visiter, il est plus ou moins intéressant, marquant, il vous parle personnellement. Là où un fonds d'investissement va vous vendre une stratégie, et puis derrière, vous saurez peut-être vaguement les adresses des actifs, vous pourrez peut-être aller les voir, mais c'est pas du tout la même chose. D'un point de vue du ticket, il y a la notion d'accessibilité, mais il y a la notion d'encadrement derrière. C'est-à-dire que, quel que soit, il y a trois types d'investisseurs, en fait. Les investisseurs particuliers, vraiment, qui eux sont les plus à risque parce que c'est pas des professionnels de l'investissement. Les investisseurs professionnels et puis les investisseurs institutionnels qui eux sont des firmes d'assurance. L'investisseur professionnel et l'investisseur particulier, ils ont pas besoin des mêmes mécanismes de protection. Donc tout l'enjeu, c'est de leur proposer un actif qui correspond à leur capacité à prendre du risque, puisque on est quand même dans une capacité, on a un risque de perte du capital.
De toute façon, et puis comme je le disais dans le sommaire, quand je parlais de rendement potentiellement à deux chiffres, forcément, plus le rendement affiché est élevé, potentiellement élevé, plus le risque est important aussi. C'est toujours cette corrélation rendement-risque.
Et le rôle de l'autorité régulatrice, quand on est dans un fonds d'investissement, c'est justement d'encadrer tout ça et de s'assurer que l'investisseur même s'il y connaît rien, même s'il comprend pas complètement, il a bien été fléché en fonction de son profil de risque. Ouais. Et il est conscient du risque, des risques là.
Il prend ou pas d'ailleurs.
Mais ouais. Dans un club deal, on doit assurer ça nous-mêmes, et c'est pour ça qu'il y a des seuils en nombre d'investisseurs, en montant total levé.
Vous n'avez pas répondu à ma question, Mathias. Néanmoins, c'est quoi le ticket d'entrée?
Je prends le relais. Je me permets, Mathias. J'arrive. Un peu de patience.
Non. Ça dépend des stratégies. C'est pour ça que c'est.
Mais ce que l'on voit quand même, ce qu'on constate, c'est qu'au cours des dernières années, notamment la plupart des acteurs sur cette classe d'actifs, ça se démocratise. Et tant mieux. Je dis pas que c'est forcément utile pour l'ensemble des investisseurs, mais néanmoins, on l'a vu, le ticket d'entrée aujourd'hui a nettement diminué. C'est vrai qu'auparavant, sur la plupart des clubs deals, on était sur un montant minimum de 100 000 euros, ce qui fait que forcément, ça limite déjà en termes de capacité l'ensemble des investisseurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu un ticket moyen aujourd'hui, au cours des 3-4 dernières années, diminuer à 50 000 euros, et même aujourd'hui, sur des enveloppes, sur des tickets entre 10 000 et 20 000 euros. Donc, ce qui fait que c'est qu'on a vraiment une démocratisation du club deal. Néanmoins, voilà, c'est vrai qu'il faut rester vigilant, puisqu'il y a quand même une perte possible en capital. Et après, c'est toujours cette appétence et ce couple rendement-risque.
On va discuter justement des thématiques et des projets dans lesquels on va investir. Parce que là, pour le coup, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus ciblé. Je faisais la comparaison qui n'est pas bonne. On est d'accord avec les SCPI. mais voilà, là où on investit et c'est sur plein de trucs à la fois. Là, en l'occurrence, j'ai le choix et je peux savoir précisément et je dois même savoir précisément dans quoi j'investis. Mais pour revenir quand même sur ce ticket, parce que je suis pénible, c'est de l'argent que je vais verser cash, c'est de l'argent que je peux faire à crédit, ça se passe comment si j'ai les moyens financiers ou pas
c'est systématiquement du cash, puisque l'idée ça va être d'aller injecter donc ces fonds propres au sein de la société qui va procéder à une augmentation de capital. Donc on part systématiquement, je dirais, de cash. Donc il n'y a pas de levier possible, comme sur de la SCPI ou sur d'autres sujets, via du crédit.
Et pareil, sur la durée d'investissement, vous disiez que ça pouvait être très court ou alors très long. Donc c'est quoi la durée moyenne d'un investissement dans le club deal?
Ça dépend du régime qu'on veut adresser. Alors déjà, pour compléter, on peut aller chercher du levier au niveau de la structure en elle-même pour faire l'acquisition. Heureusement, on n'est pas uniquement 100% en fonds propres pour aller acheter un immeuble. C'est le gestionnaire qui va aller chercher sa dette de son côté pour faire des niveaux de levier qui ressemblent à de l'investissement institutionnel. Derrière, par rapport à ça, l'enjeu, c'est quel genre d'actifs on va aller voir, quel genre d'actifs on va cibler. Et grosso modo, d'un point de vue... Excusez-moi, je me suis perdu.
Non, mais vous avez le droit de vous perdre. Moi, ça m'arrive tous les jours.
Vous avez encore discuté
en plus,
en disant
vous l'entendez à ma voix de canard, je suis un petit peu malade, alors je suis encore plus perdu.
La réflexion était bonne sur le fait que...
Le sujet, c'est combien de temps d'investissement? C'est-à-dire qu'on sait que l'immobilier, c'est du temps long, mais là, de quoi on parle?
C'est là que je voulais en arriver, mais je me suis dit que j'allais me faire disputer.
Mais non, jamais, je suis hyper gentille.
Vous m'avez regardé un petit peu mal.
Mais non!
Non, d'un point de vue stratégie, généralement, on rentre dans... Ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le schéma de marchand de biens. C'est-à-dire qu'on achète, on rénove, on redresse, on repositionne et on revend. Et ça, c'est une contrainte de 5 ans. Donc, ça permet aussi à l'investisseur de faire un aller-retour, maîtriser, de savoir à peu près quand est-ce qu'il va ressortir, comment il va faire tourner son capital. Ouais. Et vous avez aussi des stratégies un peu plus long terme, où là, on va faire de la détention longue d'actifs. Mais le club deal se prête assez bien, de par cette agilité de la gouvernance et de monter des deals, des levées de fonds deal par deal, à cette stratégie court terme.
Mais donc, du coup, il peut y avoir de tout. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des durées très courtes, à l'image du crowdfunding immobilier?
Après, ça dépend ce qu'on appelle très court, mais nous...
Sur le crowdfunding, on est plutôt sur 1 an et demi, 2 ans, quoi.
Là, on a déjà des opérations sur 12, 24, 36 mois, ce que je considère en effet très très court.
Ouais.
Et des opérations, sur en plus d'autres objectifs, on aborde d'autres thématiques, mais sur des durées entre 5, 10 et 15 ans. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, et ce qui est intéressant, il y a déjà plusieurs acteurs, il y a aussi plusieurs typologies de projets.
Bon, on y va, on va rentrer dans les projets, parce qu'en
plus,
Alban, s'il peut me mettre le timing, ça serait pas mal de savoir combien
surtout,
de temps il nous reste.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi plusieurs segments. Aujourd'hui, c'est vrai que l'immobilier classique résidentiel sort un petit peu, en tout cas, du spectre des club deals. Et c'est vrai qu'on retrouve maintenant plutôt des secteurs opérationnels. On retrouve l'hôtellerie, les hôtels particuliers. On retrouve notamment aussi les data centers, les résidences gérées, le living. Voilà, ça, c'est vraiment des segments aujourd'hui qui arrivent de façon assez importante, en tout cas, sur la notion du club deal.
Mais quand vous donnez des thématiques un peu vastes, là, comme ça, Stéphane, mais pour que ce soit très concret, ça veut dire que là, typiquement, je vais aller aider un opérateur de co-living ou, c'est quoi le sujet dans un projet d'expansion à Nantes? enfin je sais pas où, enfin voilà, est-ce que j'ai des un luxe de précision sur ce que je vais aller financer moi
du capital. On parle d'une adresse physique, on parle d'un bien tangible sur lequel on peut aller en tout cas se rendre sur place. Ça peut être différents types de biens aussi, on en parlait tout à l'heure, vraiment le terrain à bâtir, ça peut être un immeuble à restructurer, à rénover ou totalement à réhabiliter. Voilà, ça peut être aussi même un petit portefeuille de plusieurs actifs, et ça peut être du commerce, du bureau, la logistique. Voilà, après il y a tout est possible, mais je reprécise, et ça c'est vraiment important sur le téléspectateur qui nous regarde ou nous écoute, on est vraiment sur un actif qui est connu à l'avance et sur lequel la stratégie va être aussi connue à l'avance. Donc ça c'est quand même essentiel si on résume un petit peu le fonctionnement du club deal.
Et en immobilier géré, il y a les hôtels que tu connais bien, mais il y a plein d'autres stratégies. L'important, c'est d'être avec des équipes qui maîtrisent leur stratégie, qui ont quelque chose de bien défini. Nous, par exemple, c'est les enjeux immobiliers innovants à impact social. Parce qu'on pense que, sociétal au sens large, environnemental aussi, on pense que quand il y a un enjeu sociétal, il y a un marché et que ça nous permet d'adapter. En adaptant des immeubles aux enjeux, aux nouveaux usages de demain, on permet d'éviter les tours d'immeubles vides en banlieue des grandes villes françaises. Parce qu'on anticipe ces usages de demain et on assure une résilience de portefeuille assez forte.
Donc, et il y a un sujet aussi, et je sais que Romain qui travaille avec vous, qu'on salue d'ailleurs, Romain Spinel, sur la location accession, sur le leasing, là-dessus vous êtes très bien positionné parce que vous avez la conviction que c'est quand même une solution qui demain sera nécessaire dans tout un tas de pays, dont la France évidemment, compte tenu des prix, et j'imagine à Paris a fortiori, compte tenu des prix d'achat. Vous avez comme ça des petites marottes, voilà, j'osais pas le dire, mais voilà, mais en même temps qui sont des grands sujets aussi sur ce marché de l'immobilier en fait.
Oui, l'accession à la propriété, la part de nouveaux accédants, de primo-accédants, elle a reculé dans toutes les grandes villes d'Europe de 30 à 40% en 20 ans.
Ouais.
C'est ce qu'il faut retenir. Toutes les grandes villes ont le même problème et c'est même générationnel. À la limite, on gagne bien notre vie quand on a de la chance, mais on n'a pas l'apport, ouais. Pas forcément l'apport. Et nous, on essaie de résoudre ça, ce blocage, par un modèle qui est semblable au leasing automobile. C'est 50% des ventes...
La location avec option d'achat. La
location avec option d'achat, c'est 50% des ventes automobiles. Donc pourquoi ça ne serait pas la même chose dans l'achat de notre vie, qui est encore plus important que l'automobile? On fait ça pour le moment à Londres. On a lancé ça comme un club deal et finalement, on a structuré ça comme un fonds parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence et que ça pouvait intéresser des investisseurs dans plusieurs pays d'Europe. Mais on fait ça pour le moment à Londres avec des gens qui louent et peuvent convertir leur loyer en apport dans les 2-3 ans. Pour exercer leur option d'achat et acheter notre appartement, pour le moment à Londres. Et là, on est en train de regarder.
Il y a plein d'acteurs du secteur qu'on reçoit assez régulièrement, ouais, d'ailleurs, sur le leasing.
En France, il y a Estia, Sésame, des gens qui réussissent très très bien. L'enjeu, c'est de trouver les capitaux immobiliers. Et c'est pas forcément eux qui peuvent gérer ces capitaux immobiliers parce qu'ils seraient un peu jugés partis. Donc il faut un investisseur spécialisé entre l'investisseur qui apporte les fonds et l'opérateur.
Et c'est là que vous allez intervenir.
Et c'est là qu'intervient Crayon Partners. Oui.
Des idées comme ça aussi, de votre côté, Stéphane, de segments de marottes.
Non, nous, on est plutôt sur une stratégie dans l'ensemble assez opportuniste. On travaille déjà sur toute la France. Sur
c'est opportuniste aussi, quand même, parce que les problématiques d'accession...
Il y a une recherche qui est assez intéressante sur une anticipation et sur un futur marché. Donc, je comprends tout à fait le positionnement. Nous, il est encore un peu différent. C'est-à-dire qu'on va se positionner sur des actifs à forte valeur ajoutée, sur uniquement des emplacements prime. Ça, c'est pour nous, en tout cas, un élément qui est fondamental. Et le dernier point, c'est qu'on va aussi sélectionner uniquement des opérateurs qui vont investir leurs fonds propres dans le projet.
C'est la preuve que finalement, c'est quand même assez sécure aussi. C'est une forme de...
On retrouve un lien d'intérêt qui est très très fort entre l'investisseur classique et l'opérateur, puisque lui-même a investi, ça peut être 20, 30, 40, 50% dans le projet. Donc ça, je dirais que c'est hyper rassurant pour un investisseur. Donc ça, c'est les choses que l'on regarde. Sur des opérations, je disais, donc très courtes ou sur des durées un peu plus longues. Et on est aussi, je dirais aujourd'hui, assez friands du luxe. Si on va vraiment aujourd'hui aller sur un secteur en particulier, on est vraiment aujourd'hui sur le luxe et l'hôtellerie qui fonctionne encore très très bien et sur lequel finalement on a encore beaucoup beaucoup de demandes et sur lequel on a aussi de marges assez conséquentes. Donc c'est des projets que l'on regarde attentivement.
Messieurs, il nous reste 4 minutes, donc il va falloir qu'on soit très bref pour la fin, et c'est dommage parce que j'avais encore plein de questions à vous poser. Mais là, on a parlé quand même globalement. Alors, j'ai parlé de la location accession, mais il n'y a pas que ça que vous proposez. J'imagine, on parle de thématiques. Maintenant, je voudrais savoir si, une fois que les gens sortent de l'émission, se disent, où est-ce que je vais sur le site de Crayon? Je vais voir Pulsim, j'appelle Stéphane. Comment ça se passe si je veux moi-même mettre mon épargne au profit de ces club deals? Lesquels je cible? Où je les trouve? Qui j'appelle?
Il faut s'assurer du track record, de ce qu'on appelle le track record. Désolé, c'est un anglicisme encore, mais de l'expérience de chaque équipe, de ce qu'ils ont réellement fait, de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'ils ont raté. Et ensuite, il faut simplement entrer en contact en fonction du niveau de régulation. On a des sociétés de gestion qui gèrent notre fonds, par exemple, Luxembourg. Sur un club deal, c'est plutôt privé. Donc, il faut simplement déjà apprendre à se connaître pour que nous, on puisse vous qualifier.
Mais donc, je vais sur votre site, en fait. Je vais voir sur votre site, Crayon, et je vais regarder.
Tout à fait.
Nous, le format est un peu différent. C'est qu'on a un site vitrine sur lequel on met en avant à la fois toutes nos opérations passées, en cours et à venir, avec quelques éléments forcément quantitatifs et financiers. Néanmoins, on n'a pas vocation à travailler directement avec le particulier.
Ouais.
C'est pas péjoratif. On travaille plutôt avec des conseillers en gestion de patrimoine, donc qui sont CIF, conseillers d'investissement financier, ou ce qu'on appelle des family office,
ouais,
qui eux, du coup, vont faire un travail quand même assez approfondi sur l'audit et les besoins de leurs clients. Et si jamais, via des fonds propres ou des capitaux, en tout cas, c'est identifié, à ce moment-là, ils vont nous contacter pour voir un petit peu nos opérations en cours et mettre en relation. Donc, nous, on a vraiment, finalement, peu vocation à travailler avec le particulier en direct, ça peut nous arriver. On travaille plutôt avec des conseillers en gestion de patrimoine qui connaissent nos produits, connaissent aussi nos opérations passées, et donc pour le coup orientent leurs clients sur nos solutions.
Oui, donc c'est limite au client d'aller voir son conseiller en gestion de patrimoine et lui en parler.
Non, on a quand même pour autant un site sur lequel on donne pas mal d'informations sur nos opérations, donc ce qui permet quand même déjà de juger aussi. Mais si on devait, alors je sais pas si on n'est pas encore sur la conclusion.
Non, mais il regarde maintenant les timings. Je fais
très attention. Défaut de me faire couper.
Mon réalisateur Alban, il va être très fâché. Il va me dire c'est pas possible.
Mais le track record est essentiel. Je pense qu'il y a quand même trois notions qui, pour moi, si je me mets à la place d'un investisseur, souvent c'est la question que vous posez très régulièrement, Marie. Il y a trois notions qui sont importantes. C'est déjà l'actif. On n'est pas sur une SCPI, on n'est pas sur un fonds. Donc le club deal, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît l'actif. Donc c'est aujourd'hui assez facile. Il y a quand même pas mal d'éléments où on peut vérifier les éléments concrets et factuels de l'actif. Il y a ensuite, et ça c'est essentiel, l'opérateur. Qu'est-ce que concrètement, qui il est, qu'est-ce qu'il a déjà fait, d'où la notion du track record. Et ensuite, il y a la revente, c'est-à-dire les scénarios de sortie. Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce que c'est au niveau du club deal, sur le pacte d'associés, enfin, tout un tas d'éléments. Est-ce que ça, aujourd'hui, est bien assimilé et bien appréhendé par l'investisseur? Si pour moi, ces trois données sont en tout cas comprises, a priori, ça devrait bien se passer.
Et juste pour revenir sur votre question, normalement, l'investisseur, quel que soit son profil, est un peu guidé par nos sites internet qui le challenge et lui demande quel est son profil.
Oui, pour identifier
dire, je peux rien vous vendre,
c'est
désolé.
C'est ça, pour identifier. Mais comme nous font les banquiers quand vous avez peu d'épargne et qu'ils doivent vous orienter.
Exactement.
Aussi.
Et la bonne nouvelle, c'est que le club deal est... Comme il est un peu en marge du fonds d'investissement et toutes ses régulations, il est rentré dans le viseur, mais pour de bonnes raisons et avec des bons résultats.
C'est-à-dire
des régulateurs.
Il
y a un listing act qui va sortir bientôt au niveau européen, qui vise justement à encadrer les club deals. C'est-à-dire que le régulateur dit pas non, c'est quelque chose qui est en marge du système, c'est plutôt OK, c'est intéressant comme outil, à partir du moment où c'est bien fait, donc on va vous aider à créer le cadre réglementaire pour que ça se développe correctement et dans les bonnes conditions. Pour la protection, c'est l'objectif principal des investisseurs.
Et puis n'oubliez pas les thématiques qu'on aborde assez régulièrement à l'antenne. Vous parlez du marché du luxe, de l'hôtellerie. Vous, je sais que vous avez une appétence toute particulière sur l'accession sociale à la propriété. Il y a aussi des vrais sujets, je lisais dans notre préparation, sur les seniors qu'on n'a pas eu le temps d'aborder.
Mais en fait, j'en ai parlé rapidement.
Mais là, il y a la musique, c'est terminé. C'est terminé, Stéphane, c'est terminé. Alban va se fâcher. Mais tout ça pour dire que tout ce qu'on aborde comme thématique régulièrement à l'antenne de BFM Business et des experts de l'IMO, si on vous dit que c'est intéressant, ça se traduit aussi dans ce type de véhicule que sur les club deals. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Mathias Flatin, cofondateur de Crayon Partners, et Stéphane Briand, directeur du développement chez Pulsim. Je vous retrouve demain sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.